Merci d'être venu ce soir. Deux ou trois choses à dire avant de lire les textes bibliques. Première chose, merci à ceux qui ont prié pour moi, pour ma santé. Il y a quelques jours, j'ai passé un mauvais quart d'heure qui a duré quelques jours. Et je sais que plusieurs m'ont déjà dit, j'ai prié pour toi. Et puis merci, parce que le week-end dernier, je devais être en Normandie pour un week-end de retraite, de rentrée d'église, et j'ai dû annuler parce que c'était impossible de se déplacer. Donc merci pour vos prières. Deuxièmement aussi, en tant que parents, on tient à vous remercier aussi de l'accueil très chaleureux que vous avez réservé à notre fils Gavin il y a quelques années, quand il était en études de CAPES. Il a fréquenté l'église pendant un an. Et on tient en tant que parents à vous remercier, parce que c'est important de savoir que nos enfants sont bien reçus dans une église. Et donc merci pour votre amour fraternel envers lui et aussi envers notre famille et nos autres enfants. J'avais une troisième chose à dire. Les anciens de l'église Sonora m'ont dit hier soir de vous saluer de leur part et de la part de l'église. Donc, si j'oublie demain, je le dis ce soir. Vous avez des salutations de notre église à Lyon. Ce soir, la foi, savoir agir et réagir, ou les bonnes œuvres, savoir agir et réagir. Je vais vous raconter une petite histoire au sujet d'une église évangélique, comme la vôtre, comme la mienne, mais qui n'avait que 4 membres. Et les noms étaient chacun, quelqu'un, quiconque, personne. Un travail important devait être fait, et on avait demandé à chacun de s'en occuper. Chacun était assuré que quelqu'un allait le faire. Quiconque aurait pu s'en occuper. Mais personne ne l'a fait. Quelqu'un s'est emporté parce qu'il considérait que ce travail était la responsabilité de chacun. Chacun croyait que quiconque pourrait le faire. Mais personne ne s'était rendu compte que chacun ne le ferait pas. À la fin, chacun blâmait quelqu'un du fait que personne n'avait fait ce que quiconque aurait pu faire. Ou aurait dû faire. Vous avez suivi? Chacun, quelqu'un, quiconque, personne. Ce soir donc, c'est le thème des bonnes œuvres. Et je vais peut-être vous surprendre quand je vais parler des bonnes œuvres, et de quoi il s'agit. Mais chacun, quelqu'un, quiconque, personne, aurait pu faire une bonne œuvre dans leur église. Et puisque, j'allais dire personne ne l'a fait, puisque les 4 ne l'ont pas fait, eh bien, ça n'a pas été fait. Et dans nos églises, parfois, c'est un peu pareil. Alors, les bonnes œuvres, les belles œuvres, parfois, on dit. C'est une phrase qui revient plusieurs fois dans la Bible, ou surtout dans le Nouveau Testament. À vrai dire, cette phrase revient à peu près 30 fois dans le Nouveau Testament. Et 12 fois, rien que dans 1 Timothée, 2 Timothée et Tite. Et on va lire dans quelques instants chaque verset dans 1 et 2 Timothée où on parle des bonnes œuvres, d'une œuvre bonne ou des belles œuvres. Cette phrase revient 4 fois dans 1 Timothée, 2 fois dans 2 Timothée et 6 fois dans l'épître de Paul à Tite. Et dans ces phrases, il est question d'être connu pour des belles œuvres, il est question d'être zélé pour des bonnes œuvres, il est question d'être riche en bonnes œuvres. Il est question d'être un modèle en bonnes œuvres. Il est question d'exceller dans de bonnes œuvres. Ce mot exceller signifie littéralement s'appliquer à progresser dans l'accomplissement du bien. Est-ce que c'est un fardeau que nous avons dans notre cœur? Nous appliquer à progresser dans le bien que nous pouvons faire. Pendant quelques années, nous étions membres de l'église dans la Sarthe. Nous avons pu louer un local qui faisait le croisement d'une rue, rue Ravenel et rue Brasseur. Et chaque fois, le dimanche matin, presque chaque fois, on se garait sur le trottoir. On avait un trottoir à nous aussi. Et au-dessus de notre voiture, sur le pignon de notre salle de culte, c'était marqué rue Brasseur. Et puis en dessous, on était dans la ville de la Flèche, c'était marqué bienfaiteur à la ville de la Flèche. Quelqu'un qui était mort depuis longtemps, mais qui, pendant sa vie, avait fait beaucoup de bien à la ville. Et sur le dimanche matin, en arrivant au culte, j'ai arrêté la voiture, on sortait de la voiture, et j'ai regardé la pancarte, et je me suis dit, mais David, qu'est-ce que tu fais comme bien? Est-ce que tu es un bienfaiteur? Non pas à la vue de la flèche, forcément, mais est-ce que tu fais du bien dans ta vie, dans ta famille, dans ton église? Faire du bien. C'est ça, être riche ou exceller dans des bonnes œuvres. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on lise les versets dans 1 Timothée et dans 2 Timothée. Voilà. D'abord 1 Timothée 2, verset 10. On va lire à partir du verset 9. 1 Timothée 2, 9. De même aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, se parent non pas de tresses d'or ou de perles ou de toilettes somptueuses, mais d'œuvres bonnes, comme il convient à des femmes qui font profession de piété. Les œuvres bonnes ici sont comparées à un habit, un vêtement qui se voit. Ensuite, chapitre 5, verset 10, il est question ici des veuves. On va lire à partir encore du verset 9 pour le contexte. Qu'une veuve, pour être inscrite sur la liste, c'était pour des allocations pour les veuves, n'est pas moins de 60 ans qu'elle ait été la femme d'un seul mari, qu'elle soit connue comme ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux et recherché toute œuvre bonne. C'était une qualification ou un critère pour que l'Église aide les veuves sur le plan financier. Verset 24, toujours chapitre 5. Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge. Chez d'autres, ils ne se découvrent qu'après coup. De même, les œuvres bonnes se manifestent et celles qui ne sont pas ne peuvent rester cachées. Les œuvres bonnes se manifestent. Chapitre 6, versets 17 et 18. C'est la conclusion à cette première lettre. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Qu'ils fassent le bien, qu'ils soient riches en œuvres bonnes, qu'ils aient de la libéralité et de la générosité. Deuxième lettre de Timothée. 2 Timothée, chapitre 2, verset 21. 2 Timothée 2, 21. Si quelqu'un se purifie, il sera un vase d'usage noble, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Et pour terminer, 2 Timothée 3, verset 16. 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme et la femme de Dieu soient adaptés et préparés à toute œuvre bonne. On arrête la lecture ici. Toute œuvre bonne, toute belle œuvre, c'est-à-dire faire du bien. C'est-à-dire faire des choses pour les autres, au nom du Seigneur. Il y a une liste dans le Nouveau Testament de bonnes œuvres qu'on peut faire. Élever des enfants selon la parole de Dieu est une bonne œuvre. Accueillir des étrangers, c'est une bonne œuvre. Laver les pieds des invités, c'est une bonne œuvre. Personne ne m'a lavé les pieds depuis que je suis arrivé. Je ne vous en veux pas. Mais laver le linge d'un jeune, de quelqu'un qui n'a pas de lave-vaisselle, lave-linge à la maison, c'est une bonne œuvre. On peut multiplier rallonger la liste. Dans la Bible, nous lisons très souvent des gens au sujet des gens qui faisaient des belles œuvres. Dans Actes, pardon, la première fois qu'on a la phrase « bonne œuvre » dans le Nouveau Testament, ça sort de la bouche de Jésus, qui dit que la femme qui a versé du parfum sur sa tête, elle a fait une bonne œuvre. Il a même dit « tout le monde parlera de cette femme ». Et la preuve, c'est qu'ici, en Grenoble, on en parle, on n'a pas Grenoble, à Champfleury, on en parle ce soir. Il y a d'autres exemples de bonnes œuvres dans le Nouveau Testament. Dorcas, elle est décédée. Tout le monde a pleuré. Et tout le monde a dit à l'apôtre Pierre tout le bien qu'elle faisait. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Il y a aussi un autre exemple. Lorsque Paul prie pour les chrétiens, à Colosse, il prie que vous soyez riches en bonnes œuvres. Il manque des mots. Paul nous rappelle que... Pardon, ça c'est un autre verset. Paul nous rappelle que nous avons été créés en Christ pour des bonnes œuvres. Éphésiens 2. Et je crois qu'après, c'est Colossiens chapitre 1. Oui, Paul prie que les chrétiens puissent porter des bonnes œuvres, comme des fruits. Faire du bien est comparé à un vêtement. Faire du bien est comparé à porter du fruit, avoir des fruits, des beaux fruits. Un autre verset qui parle des bonnes œuvres, c'est lorsque il est question, pardon, je tourne la page, lorsqu'il est question à la fin de l'épître aux Hébreux, l'auteur de cet épître prie, Seigneur, que tu nous rendes capables de toute œuvre bonne. Les bonnes œuvres. Faire du bien. Est-ce que nous avons l'habitude de faire du bien? Est-ce que vous aimez faire du bien? Tite nous dit que les bonnes œuvres, c'est quelque chose d'utile, c'est quelque chose de beau. Faire du bien aux autres, c'est quelque chose d'utile, c'est quelque chose de beau. Dans Matthieu 25, nous avons une liste de 6 activités que les chrétiens peuvent faire. Donner à manger, c'est une bonne œuvre. Donner à boire, accueillir des gens chez soi, donner des vêtements, visiter les malades, visiter les prisonniers. 6 choses mentionnées par Jésus comme des bonnes œuvres ou comme le bien que nous pouvons faire. Alors je tiens à signaler que chaque chrétien ne devrait pas chercher à faire toutes ces choses. Celui qui est doué pour l'hospitalité n'est peut-être pas doué pour visiter les gens en prison ou les malades et vice-versa. Mais le chrétien doit se poser la question, mais quelles œuvres est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais dans mon église? Parfois, je pense que certains chrétiens ressemblent un peu au prophète Élie quand il était au fond du trou, il était dans la caverne, et Dieu vient lui dire, « Élie, que fais-tu ici? » Et je pense que parfois, Dieu aurait envie de dire à certains chrétiens, « Que fais-tu dans ton église? » Et certains chrétiens devrait dire, pas grand-chose, Seigneur. Et le Seigneur aurait des choses à nous dire. Quelles œuvres fais-tu? Quelles œuvres accomplis-tu dans ton Église? La première fois qu'on parle des belles œuvres ou des bonnes œuvres, c'est de Matthieu 5. Et la dernière fois, c'est dans un Pierre. Et selon ces deux textes, il y a un objectif double des bonnes œuvres ou du bien qu'on peut faire aux autres. Un objectif ou une partie, c'est pour que des gens se convertissent, qu'ils voient notre amour pour les autres. Et l'autre objectif, c'est que Dieu seul soit glorifié. Que des gens se convertissent et que Dieu seul soit glorifié. Et si nous faisons du bien dans nos églises, des gens peuvent se convertir. Et chaque fois qu'il y a une conversion, Dieu seul est glorifié. Alors je reviens à la question, mais qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que vous faites comme bonne œuvre dans votre église? Lorsque nous préparions des gens pour des baptêmes, lorsque nous étions dans le Pas-de-Calais et dans l'ouest de la France, on avait l'habitude de donner une liste de choses aux gens qui allaient se faire baptiser pour leur montrer que le baptême n'est pas la fin, n'est pas la fin de quelque chose, mais plutôt le début de quelque chose. Et on avait l'habitude de donner une liste de choses et on disait que Dieu ne nous appelle pas à enterrer nos talents, mais à les faire fructifier. Et que l'église locale est le lieu par excellence pour faire fructifier nos talents. Et puis, on explique qu'on ne veut pas tomber dans un activisme aigu, mais avec un esprit de service, on peut faire des choses dans notre église. Et on donne une liste, je vous livre cette petite liste, de bonnes œuvres que nous voulions que nos baptisés fassent dans l'église. Accueil le dimanche matin. Hospitalité. Collecte des vêtements. Préparer, organiser des agapes. Entretien, réparation dans le bâtiment. Le transport, ménage, présidence de culte, finance, secrétariat, prêcher, bibliothèque, préparer la salle de scène, enregistrer des messages, DVD, personnes âgées, calendrier, distribution de traités, organiser des permanences à la salle, visiter le malade, stand librairie, musique, chorale, tableau missionnaire, bulletin d'église, prier, groupe de jeunes, école des dimanches, crèche, club d'enfants, et ainsi de suite. Dans le but que les nouveaux baptisés fassent quelque chose. Et on a expliqué que si vous faites quelque chose dans l'église, vous faites du bien aux autres. Et vous faites des bonnes œuvres et de belles œuvres. Est-ce que nous avons l'habitude de faire du bien? Je disais tout à l'heure qu'il s'agit, il ne s'agit pas d'un activisme aigu, mais d'avoir un esprit de service. Service. Le fait de servir le Seigneur au sein de notre Église. Pour les gens qui aiment le grec, je vais mettre trois mots grecs et en français sur le tableau. Le mot servir, le mot service, le mot serviteur. Des mots clés dans le Nouveau Testament qui reviennent à peu près 100 fois. 37 plus 34 plus 30, ça fait 101 fois. Voilà, une centaine de fois. Parce que les chrétiens, dans le Nouveau Testament, devaient être des serviteurs. Et l'autre mot qui est employé dans le Nouveau Testament, c'est quoi? Pas seulement serviteur, mais esclave. Doulos. Servir notre nouveau maître. Parfois, dans les églises, on a l'habitude de se servir. Au lieu de servir. On a l'habitude de se servir des uns des autres, au lieu de servir les uns des autres. Et si on a une attitude de service, de serviteur, si on est prêt à faire des choses dans nos églises, eh bien, ça c'est une bonne œuvre, une belle œuvre. Et la Bible nous encourage à exceller dans les belles œuvres, à être riche de bonnes œuvres. Je viens de lire un livre qui est sorti pour les 100 ans du début de la Première Guerre mondiale. Et ce livre s'appelle « 6 semaines ». Et 6 semaines était l'espérance de vie d'un officier britannique pendant la Première Guerre mondiale, dans la guerre des tranchées. 6 semaines, et en moyenne, ils étaient morts. Et chaque officier britannique avait un jeune qui travaillait avec lui, et il l'appelait « serviteur ». C'était le serviteur, un peu comme le boy, ou une aide de camp, si vous voulez. Un peu comme Danny Boone dans « Joyeux Noël », si vous préférez. En tout cas, ce serviteur, on disait que l'officier s'attendait à ce que le serviteur soit loyal, fidèle, obéissant, prêt à prendre des risques. Parfois, un serviteur d'un officier, si vous voyez l'officier par terre, en train de mourir dans « No Man's Land », le serviteur devait aller le chercher et le ramener dans la tranchée pour les soins. Même s'il était mort, on s'attendait à ce que le serviteur prenne le risque d'aller chercher son officier et le ramener dans la tranchée. Un serviteur doit être loyal, fidèle, obéissant et prêt à prendre des risques. Ça, c'est dans les textes officiels de l'armée britannique de 1914. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, « Et qu'est-ce que le Seigneur attend de nous ?» Serviteur, servante, il s'attend à ce qu'on soit loyal ou loyaux, si on veut, fidèle, obéissant et prêt à prendre des risques, prêt à s'engager. Dites-moi si vous connaissez ce monsieur. C'est pas mon arrière-grand-père. C'est pas moi avant d'avoir eu la barbe. Theodore Roosevelt, président américain il y a à peu près 100 ans. Voilà ce qu'il avait l'habitude de dire. Choisissez les gens dont vous avez besoin. Mettez-les au boulot, puis dégagez pour les laisser travailler. Je trouve ça comme une citation intéressante. Dans nos églises, on a besoin des gens, on a du boulot. On doit les mettre au travail, et les laisser travailler, les encourager, prier, mais les mettre au travail. Est-ce que vous êtes au boulot dans votre église? Est-ce que vous faites quelque chose dans votre église? Dieu nous a donné des talents. Dieu nous a donné des dons. Et Dieu nous demande, ou est-ce qu'il exige, qu'on les mette au service des uns et des autres. 1 Pierre 4, versets 10 et 11. Une multitude de dons pour le bien des autres et pour que Dieu seul soit glorifié. Les bonnes œuvres, les belles œuvres. Si Dieu nous a équipés, tout cela est, vient de lui et toute la gloire doit lui revenir. Je vais vous montrer une autre photo. Quelqu'un qui est mort en 1945, je crois bien. 1945. Il s'agit d'un athlète qui a gagné la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Paris en 1924. Il a gagné la médaille d'or pour les 400 mètres, il a établi un nouveau record mondial. Il a gagné la médaille d'argent pour les 200 mètres. C'était un chrétien. Son nom est facile à retenir, son nom de famille, parce que ça ressemble à un nom d'une certaine chaîne de supermarché. Il s'appelait Eric Liddell. L-I-D-D-E-L. Peut-être deux heures d'ailleurs. Alors Eric Liddell était un homme très doué, très capable, très gentil. Et il est mort dans un camp prisonnier japonais en Chine. Et on avait l'habitude de dire, mais Eric, comment ça s'est fait que tu es si gentil et que tu es si doué? Et Eric avait l'habitude de répondre de la manière suivante. Eh bien, il n'y a pas de secret. Le mot qui convient, eh bien, je dirais que ma vie s'explique par les 3-7. Alors, quand les gens disent les 3-7, ça veut dire quoi? Et il disait, ça veut dire le septième verset du septième chapitre du septième livre du Nouveau Testament. Autrement dit, 1 Corinthiens 7, 7, où il est écrit, « Chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre manière. » Il savait que ce qu'il faisait, c'était tout simplement parce que Dieu l'avait équipé. Et il était reconnaissant envers le Seigneur pour ça. Et il était prêt à travailler et à servir le Seigneur, même quand il était incarcéré dans un camp de concentration japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale, à des milliers de kilomètres de sa femme, de ses 3 enfants. Il savait qu'il voulait, il devait servir le Seigneur dans ce camp. Alors, est-ce que vous servez le Seigneur là où vous êtes? Qu'est-ce que vous faites pour le Seigneur? Quelles sont les belles œuvres que vous accomplissez au nom de Jésus pour les autres? Dans le ministère, dans le service, nous devons persévérer. J'ai fait allusion à ça tout à l'heure, cet après-midi, que c'est souvent le maillon faible dans le cœur de beaucoup de chrétiens, la persévérance. On a du mal à persévérer. Mais nous devons persévérer. Nous devons être prêts à être formés si nécessaire afin de pouvoir servir le Seigneur et d'honorer le Seigneur. Quelqu'un d'autre qui voulait faire du bien était Mutombo Elijah ou Elijah, comme on dit en anglais. C'était un frère, un évangéliste hors pair au Congo belge il y a des années et des années. Et c'était un homme qui aimait le Seigneur, qui aimait parler du Seigneur. Et cet homme est tombé malade, il est devenu lépreux. Et à l'époque, tous les lépreux vivaient dans un camp de lépreux. Et dans ce camp, ce n'était pas un endroit à fréquenter parce qu'il y avait toutes sortes de crimes. des violences, des adultères, des vols, des viols, des meurtres, tout. Mais il était obligé d'aller dans ce camp. Sa femme, qui l'aimait, qui aimait le Seigneur, a dit, « Moi, je vais t'accompagner. Je ne veux pas vivre loin de toi. » Les enfants veulent t'accompagner aussi. Donc, Mutombo et sa famille sont allés dans ce camp, malgré les risques. Et que fait un évangéliste lépreux parmi des lépreux? Il ne parle pas que de la lèpre dans la Bible, mais il évangélise. Pendant 15 ans, il a évangélisé. Il a prié, « Dieu, guéris-moi, guéris-moi. » Il n'a pas été guéri pendant 15 ans. Une église est née. Après 15 ans, il était guéri. Il est venu à une rencontre des églises évangéliques du pays. Et il a expliqué aux gens, « Mais Dieu m'a guéri, il y a une église là-bas. Il faut que d'autres personnes y aillent pour servir. » Et tous les bons chrétiens, pas moi, non, pas parmi les lépreux. On n'en parle avec les riches. On n'en parle avec ma femme, pas avec mes enfants. Il a dit, mais qui va y aller? Personne ne veut y aller. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Bien qu'il soit guéri, il est retourné pour continuer à servir le Seigneur parmi les lépreux. Il était prêt à prendre des risques parce qu'il savait que parler de Jésus à des gens dans le besoin était une belle œuvre, était une bonne œuvre. Et il voulait faire ça pour le Seigneur et pour le bien des autres. Des belles œuvres, des bonnes œuvres, faire du bien, que c'est important. Il ne s'agit pas de crier sur les toits tout le bien qu'on fait. Il y a des gens qui font beaucoup de bien et qui ne font pas beaucoup de bruit. Il y a des gens qui font beaucoup de bruit et qui ne font pas beaucoup de bien. Si vous faites du bien, ne faites pas de bruit. Mais continuez, persévérez dans le bien que vous faites. Parce que selon 1 Timothée, 2 Timothée, Dieu veut qu'on s'habille de bonnes œuvres. Dieu veut qu'on soit riche en faisant du bien. Il y a quelques temps, j'ai fait une liste d'œuvres qui existent, de bonnes œuvres qui existent, qui ont été, quel est le mot que je cherche? Elles vont dire initiées ou créées par des chrétiens évangéliques. Je vais vous lire quelques éléments de cette liste. L'armée du salut. S, S et S. Soupe, c'est important. Savon, pour un ado, c'est pas très important. Salut, c'est vital. Ils font du bien. Ils évangélisent la plupart. Des cas en tout cas, et ils font du bien. L'armée du salut. Je vous rappelle que la Banque alimentaire en France était fondée par 3 associations il y a des années, dont l'armée du salut. Donc, ce n'est pas négligeable. La Croix-Rouge, fondée par qui? Comment est-ce qu'on écrit Henri? La dernière lettre, c'est quoi? Un Y. Henri, du nom, chrétien, évangélique suisse. La mission évangélique contre la lèpre. Vous savez, en Grande-Bretagne, une des marraines, je devrais dire, de la mission évangélique contre la lèpre, en Grande-Bretagne, était Princesse Diana. Quand elle est décédée, elle a légué 1 million de livres à cette association. Parce qu'elle voyait le bien que cette association faisait dans le monde. En France, il y a SOS Amitié. C'est basé sur une association britannique, chrétienne, qui s'appelle les Samaritains. Intéressant comme nom, hein? On téléphone et on parle de tous ces soucis, tous ces problèmes. Et les Samaritains écoutent. Comme le bon Samaritain dans l'Évangile. Pas loin d'ici, il y a 80 personnes qui travaillent dans des bureaux à Genève avec MEDER, heure évangélique. World Vision, une grande association humanitaire évangélique dont on parle parfois même aux infos à la télévision française parce qu'ils font beaucoup de bien dans beaucoup de pays. J'ai pensé à des orphelinats. Certains connaissent le nom de George Muller à Bristol. En même temps que George Muller était à Bristol, il y avait un certain Andrew Reed à Londres. Vous savez, George Muller priait, Seigneur, donne-moi l'argent. Et l'argent arrivait. À Londres, André Reed, il avait une autre façon de faire. Il écrivait aux hommes politiques. Il écrivait à la reine Victoria. J'ai besoin d'argent. Et les gens envoyaient de l'argent. La reine Victoria allait voir les orphelins qui construisaient. Et elle voyait que cet homme faisait beaucoup de bien. Un chrétien évangélique. En France, il y avait la fondation Jean Bost. John, d'ailleurs, J-O-H-N, Bost. En 1848, il a fondé des maisons pour accueillir des malades et des handicapés. Et sa devise était « Ceux que tous repoussent, je les accueille au nom de mon maître. » Et cette fondation existe encore aujourd'hui. Et puis il y a d'autres institutions, des orphelinats ailleurs, des hôpitaux, des maisons de retraite, les droits de l'homme, abolition de l'esclavage, etc., etc. Des gens qui ont commencé avec peu de moyens et dont on parle toujours aujourd'hui parce qu'ils ont osé prendre des risques sur le plan local et puis leur œuvre a grandi beaucoup plus que ce qu'ils auraient imaginé. Nous ne voulons pas créer des associations d'envergure internationale ou intergalactique, n'est-ce pas? Tout ce que le Seigneur nous demande, c'est là où nous sommes que notre lumière brille. Et notre lumière peut briller si nous faisons du bien. Au niveau de l'église locale, dans votre église, trois bis peut-être, rue Casimir-Perrier, qui fait du bien? Qui devrait faire du bien? Qui ne fait pas de bien? J'ai trouvé une autre citation, excusez-moi, ça vient encore de la guerre, mais Pearl Harbor est votre église. Désolé, c'est un peu, c'était la nuit, je crois que la faute a été prise. Mais il y a quelques années, en 1999, donc il y a 15 ans, lors de la mise à l'eau d'un nouveau sous-marin nucléaire à Pearl Harbor, l'amiral Albert Konetny a fait un discours. Et dans ce discours, il a parlé de votre église. C'est étonnant. Comment est-ce qu'il connaissait votre église? Eh bien, voilà un extrait de son discours. Comment résumer la vie à bord d'un sous-marin? Question. Il donne la réponse. Il y a des individus. Il y a un engagement. Il y a de l'efficacité. Et je me dis, mais là, il parle de votre église. D'ailleurs, il parle de mon église, de notre église à Lyon. D'ailleurs, il parle de toute église évangélique. Parce que normalement, dans une église évangélique, il y a des individus. Hein? On est tous des individus. Pas trop individualistes, mais on est tous des individus. Il y a normalement un engagement. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Comme l'histoire au début, chaque individu n'est pas toujours engagé. Mais normalement, il y a un engagement. Et s'il y a un engagement et des activités et la bénédiction de Dieu, il y aura de l'efficacité. Activité, efficacité, individu, engagement. Comment résumer la vie dans notre église locale? Eh bien, j'espère qu'il y ait des individus, j'espère qu'il y a un engagement et j'espère qu'il y aura de l'efficacité. Et si vous faites quelque chose pour Dieu dans votre église, ça va contribuer à l'efficacité de votre témoignage et de votre vie d'église. Je termine en lisant un petit texte. Si la note disait, ce n'est pas une note qui fait la musique, il n'y aurait pas de symphonie. Si le mot disait, ce n'est pas un mot qui peut faire une page, il n'y aurait pas de livre. Si la pierre disait, ce n'est pas une pierre qui peut faire monter un mur, il n'y aurait pas de maison. Si la goutte disait, ce n'est pas une goutte d'eau qui peut faire une rivière, il n'y aurait pas d'océan. Si le grain de blé disait, ce n'est pas un grain de blé qui peut ensemencer un champ, il n'y aurait pas d'océan, il n'y aurait pas de moisson. Comme la symphonie a besoin de chaque note, comme le livre a besoin de chaque mot, comme la maison a besoin de chaque pierre, comme l'océan a besoin de chaque goutte, comme la moisson a besoin de chaque grain de blé, ton Église a besoin de toi. Et toi, que tu le saches ou pas, tu as besoin de ton Église. Amen. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as donné à tous des dons et des talents. Nous te prions de nous aider à les découvrir, à les développer et à les mettre au service des uns et des autres, au sein de nos églises et de nos associations évangéliques. Tu vois les besoins. Seigneur, aide-nous à être des serviteurs utiles, actifs, loyaux, obéissants, prêts à prendre des risques. On ne prendra jamais une balle en plein cœur, mais aide-nous à être prêts à prendre des risques afin que nous puissions te servir là où tu nous as placés. Aide-nous, Seigneur, à marcher avec toi, à accomplir des belles œuvres, à ne pas chercher à se faire un nom, mais aide-nous à te servir avec humilité et fidélité, tout comme Christ est venu nous servir. Aide-nous à suivre son exemple. Et en son nom, nous te prions. Amen.
Merci, David. Dans l'église, qui fait ce week-end, l'église chrétienne évangélique, il y a...